Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui voit dans son pays d'origine, le Maroc, un espace de développement et de réalisation. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatema Boussala, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Comment ça va? Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Très bien, merci, je vais très bien. Merci pour l'invitation, c'est un honneur.
Alors, Fatema, vous êtes installée en France.
Exactement.
Et vous êtes chef d'entreprise.
Exactement. Donc, j'ai grandi en France. J'ai créé ma première entreprise en France il y a maintenant 14 ans.
Ouais.
Et la deuxième au Maroc il y a 4 ans.
Ok. Donc, maintenant, vous êtes vraiment entre, comme on dit, entre les deux rives.
Exactement. J'ai toujours été entre les deux rives. Et ça s'est concrétisé un peu plus il y a 4 ans avec la création de la deuxième structure avec du personnel sur place.
Alors, première entreprise en France, deuxième au Maroc, elle est récente. Alors, qu'est-ce qui vous a... Et vous avez grandi en France. Et pourquoi avoir voulu venir tenter l'expérience aussi dans votre pays d'origine?
Alors, moi, depuis toute petite, j'ai toujours su qu'un jour, j'investirais ou je rentrerais au Maroc pour un poste à responsabilité. Ça, c'était vraiment dans ma vision des choses. Je l'ai concrétisé, il y a déjà 14 ans, parce que l'entreprise, elle était déjà entre les deux rives, parce que voilà, le conseil, il était aussi bien pour des prestataires retail sur la France que sur le Maroc. Mmh. Et ensuite, pourquoi avoir voulu, il y a 4 ans, parce que j'avais très envie de créer de l'emploi. Vraiment, c'était, il y avait une dimension sociale que je voulais accomplir. Voilà, j'étais beaucoup dans les associations, je faisais beaucoup de choses, c'était voilà, du bénévolat. Et moi, j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose en créant de l'emploi. Et je savais que c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Le marché du travail au Maroc, en tout cas le marché les salariés qu'on peut trouver sur le Maroc à ce moment-là et encore maintenant aujourd'hui sont qualifiés. Donc c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire et j'ai bien fait. Bon, on l'a fait juste avant Covid.
C'est ça, absolument.
On a décidé de voir,
ouais.
Juste avant Covid. Alors, j'ai gardé ma dimension sociale où j'ai pas licencié, pas du tout. Mmh. On a maintenu les salaires, ça a été compliqué pour nous, mais bon, c'était un parti pris parce que cette dimension sociale, elle me tenait à cœur. Et je pouvais pas avoir engagé des salariés avec moi 6 mois avant, les avoir formés, et puis 6 mois après, leur dire, non... On ferme les robinets. Donc, on a tenu le coup, on a revu notre stratégie. Et puis, quand ça a redémarré, ils étaient là, à nos côtés.
Mmh, mmh. Alors, justement, venir investir au Maroc, c'était compliqué?
Alors, j'ai cru que ça allait être compliqué.
Ouais.
Parce que vous savez, vous avez toujours, quand vous êtes enfant, on vous dit toujours, attention, les administrations au Maroc, c'est compliqué. Et puis, on le vit un tout petit peu quand on rentre pour des papiers, quels qu'ils soient. On le vit un tout petit peu aussi vis-à-vis des consulats ici. Donc, on pense que c'est compliqué, mais à tort, parce qu'on compare beaucoup avec la France, alors que c'est deux choses qui ne sont pas du tout comparables. On a des manières de faire qui sont différentes. On a des manières qui s'adressent à des populations différentes. Donc, pour ma part, on ne peut pas comparer. Après, bien sûr qu'il y a eu des complications, mais après, il y a toujours des solutions et ça fait partie du jeu. Mais ça n'a pas été compliqué. Si vous voulez, moi, j'ai externalisé la partie création. Quand je suis rentrée, j'ai juste eu à signer les papiers et puis on a démarré.
Mmh. C'est une entreprise en quoi, justement?
Alors, nous, on est spécialisés dans tout ce qui est méthodologie de mesure de la satisfaction et des besoins de la clientèle. On est expert en neuromarketing et avant de pouvoir analyser, on est sur le terrain grâce à des applications qu'on a créées avec des dispositifs de visite mystère, d'audit de relevé de présence produit et prix, avec une présence internationale et notamment une présence africaine grâce à l'équipe Maroc.
Alors moi, j'ai toujours été intriguée par ça, par les neuromarketing. Ça m'a toujours fascinée, je trouve ça,
ouais,
mais extraordinaire.
Ouais.
Exactement, c'est certains pourraient penser... Certains appellent ça de la manipulation. Mais voilà, vous, vous définiriez ça comment, le neuromarketing ?
Alors, c'est pas du tout de la manipulation. On l'a défini à tort comme de la manipulation, mais moi, je dirais que c'est plus des clés de compréhension. Aujourd'hui, nous, on l'utilise comme des clés de compréhension pour avoir de la data tous les jours pour pouvoir analyser et puis dire à nos, clients, voilà comment vos consommateurs agissent et voilà comment vous, il faut vous adapter à ces tendances de consommation. Et les tendances de consommation, aujourd'hui, elles sont régies par la société parce qu'on vit, là, tout à l'heure, je regardais un petit peu ce qui se passe au Maroc. Le Maroc vit une inflation qu'il n'a jamais vécue, comme on vit en Europe. Mais il y a aussi des paramètres sociaux, politiques, culturels. Donc, tout ça, ça s'analyse. Et ça permet aussi de comprendre les mécanismes entre le cerveau, la raison, les émotions, les achats plaisir, les achats contraintes. Enfin, voilà, tous ces mécanismes-là. Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi l'utiliser pour de la manipulation. Mais en tout cas, nous, c'est pas dans cette optique-là.
C'est ça. Alors, de toutes les manières, le marketing, c'est une forme de manipulation. C'est-à-dire qu'on fait tout... On fait tout pour que ce produit soit acheté. Les neuromarketing, c'est a step further. C'est vraiment un plus.
Oui, exactement. Alors oui, le marketing, on fait tout pour acheter. Mais Yasmine, lorsque l'on achète, on fait aussi tourner l'économie.
C'est vrai.
Ça crée de l'emploi. Si moi, j'achète chez un tel, et un tel achètera chez X, et puis X achètera chez Y. Et puis voilà, ça fait tourner l'économie. C'est vrai que en ce moment, on pointe beaucoup du doigt la grande distribution, les grosses industries agroalimentaires, mais il ne faut pas oublier que c'est des entreprises qui sont pourvoyeuses d'emplois. Et les personnes qui y travaillent, c'est souvent des petits, comment on pourrait dire ça sans vulgariser la chose, c'est des petits emplois en fait. Et s'il n'y avait pas ces postes-là, ces personnes-là, elles n'auraient pas de quoi vivre non plus. Moi, je pense beaucoup à tous les petits métiers de service, tels que les caissières, les femmes de ménage, les magasiniers. Enfin, ils ont besoin aussi de ces emplois-là.
C'est vrai qu'il y a aussi les contre-exemples de tout ce qui est aujourd'hui, ce qu'on voit, cette fast fashion, cette consommation à outrance, où les neuromarketing jouent un rôle important. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas notre sujet. Mais néanmoins, je voudrais vous poser cette question. On sait qu'on utilise beaucoup les neuromarketing dans les grandes distributions aussi. Est-ce que vous avez eu déjà des exemples de neuromarketing utilisés pour la conception d'émissions et de programmes dans les médias ?
Pas du tout, mais ça peut être l'occasion.
Ah ben voilà.
Ça sera l'objet d'une bonne étude. Sachez, Yasmine, moi, que j'envisage une thèse dans ce domaine-là.
OK.
Très prochainement. Donc, je vais commencer mes travaux de recherche dans ce domaine-là, mais ça peut être envisagé. Alors, pour en revenir, pour conclure sur la grande distribution, ça permet aussi des clés de compréhension pour le client interne, pour le personnel. L'idée, c'est de satisfaire le client externe, mais aussi que l'on comprenne les contraintes du client interne, donc du personnel, et d'apporter aussi du confort. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, et c'est comme ça qu'on le vend à nos clients, et c'est comme ça que le voient aussi aujourd'hui les clients. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix.
Mais les neuromarketing vont très loin. C'est-à-dire que une fois n'est pas coutume dans Femmes d'aujourd'hui, mais vous êtes ma femme d'aujourd'hui et c'est une casquette importante de votre vie. Donc je l'utilise pour un maximum d'informations. Les neuromarketing, c'est pas uniquement où mettre une affiche, c'est aussi quelle odeur diffusée au sein d'un endroit, c'est quelle musique diffusée aussi dans un lobby, dans un centre commercial, etc. Ça va très très loin en fait, toutes ces choses-là.
Ça va très très loin dans les cinq sens.
Dans les cinq sens, tout à fait, absolument. Fascinant. Bon, alors, ma femme d'aujourd'hui, Fatema Boussala, justement, qu'est-ce qui vous a emmené au neuromarketing ?
Alors, franchement, concours de circonstances, moi j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est accueil, hospitalité, mais à vrai dire, quand on retourne un petit peu en arrière, l'accueil, l'hospitalité, c'est dans nos gènes. Même si on a grandi en France, on reste marocain. Donc l'hospitalité, l'accueil, ça reste vraiment quelque chose d'inné et de presque génétique, j'ai envie de dire. Donc j'ai atterri dans le marketing vraiment par hasard et dans le retail. Moi, j'étais destinée, j'ai fait des études de lettres étrangères appliquées donc au commerce extérieur et j'étais destinée à de l'interprétariat, de la traduction. Et concours de circonstances, j'ai acquis des postes de responsable service client, marketing à l'échelle européenne. Et je me suis toujours intéressée donc, à la satisfaction du client externe et interne. Enfin, mon travail, en tout cas, à chaque fois que j'ai été salariée, je savais que si au niveau du chiffre d'affaires, ça n'allait pas, c'est que la satisfaction client n'était pas optimum. Et c'est qu'au niveau du management en interne, ça n'allait pas, que le client interne n'était pas satisfait. Donc, j'y suis arrivée, si vous voulez, comme ça, par concours de circonstances, au gré de l'expérience. Puis après, moi, j'ai évolué aussi chez Foot Locker, une grosse partie de ma carrière, donc une entreprise américaine. Et les Américains sont quand même novateurs sur ces systèmes-là. Donc voilà, j'ai atterri là-dedans un petit peu par hasard.
Donc vous n'êtes pas psychologue de formation
Pas du tout.
Non.
Pas du tout, mais je peux ingurgiter aller 2-3 livres de psychologie par mois, j'adore ça. Aller à des conférences de psychologie, pareil, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin voilà, ça va de pair. Pour moi, le marketing, la psychologie, la sociologie, l'histoire aussi est une part importante de mes travaux. Parce que pour comprendre les comportements de consommation d'aujourd'hui, il faut comprendre aussi l'histoire. Il y a une genèse derrière.
Absolument. Est-ce que justement, ce travail a eu un impact sur vous? Un impact à comprendre aussi, votre propre histoire personnelle?
Ah, mais c'est peut-être, maintenant que vous posez la question, Yasmine, c'est aussi peut-être mon histoire personnelle, parce que quand vous grandissez en France, que vous êtes marocain, alors moi j'ai eu la chance qu'à la maison on parlait l'arabe tout le temps, j'ai eu la chance d'apprendre l'arabe, hein, donc l'écrit, j'ai eu la chance de baigner dans une culture arabe, aussi bien la musique, le théâtre. Donc on se pose beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi on est arrivé ici? D'autant plus que j'ai grandi dans un petit village, ici en France. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions et je pense que voilà, l'histoire personnelle fait que on arrive à professionnellement à certains postes pas par hasard.
C'est pourquoi justement? Se comprendre, s'accompagner
S'accomplir peut-être. Moi, je vois ça vraiment comme une passion, mais vraiment, là, tout le monde, encore ce matin, on parlait de la retraite. Alors, ouais. Elle est loin, la retraite, mais je ne me vois pas prendre ma retraite, ce n'est pas possible. Je pense que je continuerai encore à étudier et à transmettre surtout.
Oui. Alors, justement, le fait de venir s'installer au Maroc, donc ça vous fait venir beaucoup plus souvent, ça vous fait aussi travailler avec une autre mentalité, etc. Tous ces préjugés qu'on a sur le travail avec les Marocains.
Alors, on a des préjugés qui peuvent être parfois fondés. Alors, moi, j'en fais l'expérience parce que j'ai récemment aussi, si vous voulez, internalisé tout mon service informatique qui est maintenant au Maroc. Donc, je sous-traitais donc en France à l'époque et maintenant c'est au Maroc. Oui, il y a des préjugés, mais c'est culturel. C'est comme si, c'est comme si on voulait aussi travailler avec le Luxembourg ou avec Londres. Il y aurait également des préjugés et c'est aussi à nous de nous adapter. Et très honnêtement, on s'adapte très facilement. Après, la chance que j'ai, je pense, c'est que cette double culture, elle me permet justement de m'adapter très facilement. Et c'est aujourd'hui ce pourquoi viennent les clients chez nous. Parce qu'on a des concurrents, très peu. On a des très gros concurrents qui nous sous-traitent aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie fierté pour nous. On ne les voit pas comme des concurrents, mais vraiment comme des partenaires. Et vraiment, c'est parce qu'on a cette double culture, la capacité de comprendre quelles sont leurs attentes et leurs contraintes également vis-à-vis d'un sujet de prédilection, d'une analyse. Et puis la capacité aussi de manager les équipes sur place et de comprendre les contraintes sur place. Donc ça, c'est une vraie chance en tout cas.
Alors, justement, parce que c'est un domaine tellement pointu, tellement particulier, il a fallu faire une étude de marché, il a fallu... savoir si ça allait, s'il allait y avoir une demande. Comment vous y êtes pris?
Je me suis lancée directement, Yasmine. J'avais très envie de le faire sans poser de questions. Alors après, concours de circonstances, il y avait un grand groupe. Moi, j'étais responsable de travaux maintenance à l'époque, pour une grande enseigne. Et puis après, je suis passée prestataire de service. On avait un gros client et le gros client voulait que j'aille travailler chez eux. Moi, c'était pas le moment. Les enfants étaient petits. Enfin, voilà, je voulais, limiter un petit peu les voyages à l'international. Et je leur ai tout de suite dit, écoutez, moi, j'ai envie de créer mon entreprise. Voilà ce que je propose. Ils ont été mes premiers clients. Donc, je me suis pas posé la question. Il n'y a pas eu d'études de marché. Je suis d'un tempérament où je vais beaucoup dans l'action. Je propose moi-même des études de marché. Hein. Donc ça, on le fait beaucoup, les diagnostics stratégiques pour des grandes entreprises, aussi bien pour l'implantation en France ou alors l'exploration de, d'autres marchés. Mais en tout cas, moi, dans mon tempérament, je ne réfléchis pas longtemps, en fait. Mmh. On va explorer, si vous voulez, le marché un tout petit peu, mais on ne va pas s'éterniser pendant un mois. On va y aller. Ça marche, c'est très bien. Ça ne marche pas, on passe à autre chose.
Mais vous êtes de tempérament, justement, entrepreneur ? Parce que c'est vraiment les entrepreneurs, ils se lancent, ils sont comme ça. Est-ce que c'est votre ADN aussi ?
Alors oui, je dirais maintenant avec du recul, je suis d'un tempérament entrepreneur. Je l'ai pas été, je pense, dès le départ. Mais après, on apprend justement que l'échec fait partie de la réussite et puis fait partie du chemin. Voilà. Donc moi, c'est vraiment aussi le conseil que je donne à tous. Lancez-vous. De toute façon, si on a peur, on ne fait rien. On reste là où on est.
Absolument. Mais si je comprends bien, vous étiez dans le salariat avant.
Oui.
Et pourtant
oui, donc j'étais dans le salariat. Je me suis toujours dit que j'allais créer mon entreprise. Je pensais que ça arriverait plus tard. Je m'étais dit, allez, quand les enfants seront grands, à la cinquantaine. Et puis en fait, non, c'était quand ils étaient tout petits, d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés après. Donc j'ai toujours su que j'allais créer parce que j'avais toujours pas mal d'idées, ça fusait dans ma tête. Et puis surtout j'avais cette envie de liberté d'avancer à mon rythme et puis cette envie d'aller explorer aussi d'autres marchés à l'international. Moi, l'international, c'est quelque chose aussi qui me passionne, d'aller voir d'autres contrées. Il faut savoir que on a beaucoup parlé tout à l'heure de neuromarketing, mais moi les clients, je les emmène vivre le quotidien des consommateurs. C'est-à-dire que quand on a un client, on passe 15 jours au Maroc, donc aussi bien aller dans les endroits chics qu'on va vivre ce que vit le consommateur. On prend les transports que prend le consommateur, on va dans les marchés où vont les consommateurs parce que voilà, il faut vivre ça avant de proposer un service ou un produit. Donc j'ai toujours su que c'est ce que je voudrais faire. Et là où je voulais aller.
Eh bien, Fatema Boussala, bon courage et bravo pour ce joli parcours. Et encore une fois, voilà, on a eu l'occasion de discuter ensemble de neuromarketing. C'est un sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci Yasmine, bon courage également à vous et puis à toutes les femmes, foncez, avancez et puis ne vous posez pas de questions.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.